Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le salon Maghreb Orient des Livres, qui s'est tenu le week-end dernier à la mairie de Paris, s'affichait entre résistance et engagement citoyen. Résistance aux multiples formes de repli identitaire qui se constatent dans de nombreux pays. Engagement citoyen en réaction à ces replis, comme on le note en Irak, au Liban ainsi qu'en Algérie. L'Algérie, pays sur lequel le salon avait choisi cette année de donner un coup de projecteur. Discours, débats et projections autour de la contestation algérienne, en passe de fêter son premier anniversaire, ne devaient pas pour autant faire oublier l'essence même de ce salon, la production et la diffusion de textes, romans, essais, tribunes, bandes dessinées. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les curiosités. Un constat toutefois, il n'est pas facile de publier au Maghreb. C'est ce que l'on peut retirer des entretiens que nous avons réalisés avec deux éditrices pugnaces et engagées, Selma Elal, qui tient boutique à Alger, et Kenza Sefrioui, installée à Casablanca. Retrouvez cette émission sur notre site www.rfi ou sur notre appli Pure Radio. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'émission et à nous encourager en nous accordant 5 étoiles et en laissant un commentaire. Bonjour Selma Elala.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes la fondatrice de Barzac Éditions en Algérie. Selon vous, quel est l'état de ce secteur de l'édition dans votre pays ?
Alors, le secteur se porte mal. Ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de la distribution, par exemple, le secteur se porte très très mal. Il y a une dizaine de librairies à peine dignes de ce nom à l'échelle de tout le pays. Pour un pays de plus de 40 millions d'habitants, c'est quand même assez dramatique. Et il y a donc un problème structurel d'impossibilité pour le livre de rencontrer son public. D'où d'ailleurs l'importance du Salon international du livre qui a lieu fin octobre, début novembre, qui est attendu par tout citoyen algérien comme un moment vraiment structurant parce que le livre étranger est disponible et donc ça va être l'occasion pour le citoyen de faire le plein et de repartir à sa solitude et à la désolation durant le reste de l'année. Si on se place en revanche du côté de la production littéraire en tout cas. Il y a incontestablement, et même mes confrères voisins du Maroc et de Tunisie le confirment, il y a incontestablement un foisonnement et une bonne santé, une production réjouissante en fait. Et on a quantité d'auteurs qui se sont révélés ces dernières années, de Mustapha Ben Fodil à Shawqi Amari, en passant par Riyad Giro, Hajar Bali. Donc voilà, je ne dirais pas que c'est la même chose dans les sciences sociales. La production dans les sciences sociales, en revanche, est plutôt réduite à la portion congrue, ce qui s'explique par la faillite du système universitaire. Alors que justement à l'inverse, chez nos voisins marocains et tunisiens, eh bien cette production-là se porte fort bien. D'où la nécessité peut-être de réfléchir, mais c'est un chantier, un vaste chantier, la nécessité de réfléchir à des synergies transversales. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés là au Maghreb des Livres avec les éditions En Toutes Lettres pour le Maroc et les éditions Elizade pour la Tunisie. On essaye, c'est timide, ça bégaye, mais nous sommes conscients qu'il y a comme ça possibilité de champ de recouvrement qu'il faut explorer.
Est-ce que le système éducatif algérien produit des lecteurs ?
Alors, je pense que rien n'est fait, ou si peu, pour donner à la lecture, donc à la littérature, la place qu'elle mérite. Et c'est très tôt. On a souvent des étudiants de lettres qui arrivent donc pour la première année de lettres après le bac, qui n'ont jamais lu un roman en entier, à qui donc on n'a pas appris à tenir un livre, à lire un livre en entier, et qui se sont contentés d'extraits, de fragments. Donc oui, je pense que beaucoup de choses sont à revoir en fait dans la politique du livre, et donc la synergie entre ministère de la Culture et ministère de l'Enseignement. Comment dire, la littérature n'est pas considérée comme... J'irai même plus loin, je dirais que tout ce qui va nourrir l'imaginaire n'est pas célébré comme ingrédient vital pour l'écolier et le futur citoyen algérien.
Pourtant, vous avez dit précédemment qu'il y avait une profusion d'auteurs et de nouveaux auteurs. Ce serait donc paradoxal.
Eh bien, ce sont quand même des générations qui ont entre 40 et 50 ans, alors que le système scolaire et universitaire était encore, je crois, tenait encore bien sur ses fondations. Après, il restera toujours, si vous voulez, à mon avis, de formidables trajectoires singulières, aussi bien dans le système public que dans le système privé. Je pense que les lecteurs seront toujours là, mais pourquoi cela devrait-il se faire dans l'adversité, en fait, si vous voulez, toujours à contre-courant, dans une espèce de climat si peu propice au déploiement de l'imaginaire. En fait, c'est ça. Ces gens qui ont 40, 50 ans, ont le désir forcené de pouvoir transmettre cela à leurs enfants en réparation des défaillances du système scolaire. Ce sont ces gens-là qui viennent avec leurs enfants au Salon du Livre et qui essayent d'acheter et de constituer une bibliothèque. Mais on mesure quand même, on mesure que le plus gros du lectorat de la littérature a plus de 50, 60 ans, quoi. Voilà.
Pourtant, les jeunes ne manquent pas d'imagination. On le voit d'ailleurs lors des manifestations depuis un an où les slogans, un slogan chasse l'autre, est toujours très intéressant.
Mais c'est une autre forme de créativité et je pense que ça, il faut y être extrêmement attentif. Et je pense que chaque pancarte, chaque slogan en effet inscrit mérite d'être décrypté et oui, témoigne d'une énergie phénoménale, d'une agilité dans les références prises aussi bien donc pour faire court dans l'Orient et dans l'Occident, mais ça ne va pas forcément puiser dans ce qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire la littérature. Mais voilà, je ne vais pas établir de hiérarchie. Et très bien si ces jeunes gens puisent dans la culture globale d'aujourd'hui qui mélange aussi bien l'anglais que l'arabe, que le français. Voilà, cette jeunesse qu'on a peut-être eu tendance, des générations comme la mienne et les générations aussi plus âgées, qu'on a peut-être eu tendance à minimiser le réservoir d'imagination, a en effet montré qu'elle avait des propositions, alors qu'ils ne puisaient pas forcément dans la littérature, mais pourquoi pas dans d'autres gisements, pourquoi pas.
Alors vous parliez des différentes langues, est-ce que l'édition se porte mieux en arabe qu'en français par exemple, en Algérie ?
Alors incontestablement, le public majoritaire est en langue arabe, mais c'est un public désargenté, jeune et qui ne fréquente pas la librairie, donc il faut le conquérir autrement. Et nous sommes en train d'essayer d'inventer des nouvelles formes via les cafés littéraires, etc. Pour la littérature française, c'est un lectorat plus structuré, plus fidèle et en effet plus argenté aussi, donc qui va être plus actif et plus structuré dans la manière dont il va, plus cohérent aussi et loyal en fait, dans la manière dont il va suivre la production littéraire en langue française.
Selma Elal, merci.
Merci à vous, merci à Eric Bataillon, au revoir.
Selma Elal, éditrice et directrice de la maison d'édition Barzac à Alger, que nous avons rencontrée au Salon Maghreb Orient des Livres à Paris.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Kenza Sefrioui.
Bonjour Eric Bataillon.
Vous êtes fondatrice et directrice de la maison d'édition de Casablanca En Toutes Lettres, une maison d'édition qui édite beaucoup de livres en ce moment et notamment un dernier livre sur les migrations, migrations subsahariennes au Maroc et aussi migrations, bien entendu, vers l'Europe. Diriez-vous que l'édition au Maroc aujourd'hui est en bonne santé ?
Alors, j'aimerais éditer vraiment beaucoup de livres. On en a fait deux cette année et c'est beaucoup parce que nous sommes une toute petite structure et qu'il ne nous a pas été possible justement de faire plus. Mais non, l'édition ne se porte pas bien au Maroc. Commençons par l'optimisme. On n'a jamais autant publié au Maroc ces dernières années parce qu'il y a eu effectivement un progrès de l'alphabétisation, même s'il reste à nuancer en raison des taux très inquiétants encore d'analphabétisme et d'illettrisme et d'abandon scolaire lié au désastre de l'éducation publique. Mais il y a de plus en plus de gens qui savent lire, qui sont en mesure d'écrire et qui ne s'en privent pas. Donc, Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On publie à peu près 4000 titres chaque année. C'est en légère progression depuis plusieurs années. Je m'appuie pour vous affirmer cela sur le rapport que publie chaque année la Fondation El Saoud, un rapport de bibliométrie très précis sur l'état du livre et de l'édition au Maroc. Et c'est un document très précieux pour en comprendre vraiment les enjeux. Donc on publie plus, mais en même temps, très peu de maisons sont de taille à publier plus de 20 titres par an. Nous ne sommes pas de taille. Ceci dit, pour le deuxième élément qui me rend optimiste, c'est que malgré le désastre économique que constitue ce secteur, ça ne décourage pas des gens de se lancer dans cette profession. Et il y a un renouvellement du paysage des maisons d'édition. Il y a eu ces dernières années la création de plusieurs maisons. Je pense à Virgule Édition qui a 5 ans. Nous, on a 5 ans. Sirocco a 5 ans. Il y a les éditions de la librairie des colonnes à Tanger. Il y a Culte, Galerie et Édition à Rabat. Enfin, donc il y a un paysage éditorial qui se renouvelle parce qu'il y a des gens qui ont envie de défendre des projets intellectuels et artistiques via le livre.
Donc un renouveau dans ce domaine des maisons d'édition. Mais alors, qu'est-ce qui pêche ? Vous disiez que finalement, l'édition ne se porte pas bien dans votre pays.
Parce qu'il n'y a pas d'enseignement qui inclut suffisamment le livre comme une pratique quotidienne de lecture-plaisir. C'est-à-dire que vous sortez de l'école, vous n'êtes pas forcément un lecteur. Il y a un gouffre entre le marché de l'édition scolaire qui représente des tirages à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et l'édition de littérature générale, donc la lecture-plaisir, quand vous n'y êtes pas obligé ou contraint par l'école. Et là, c'est des tirages de 1500 exemplaires qui s'écoulent en plusieurs années. Il n'y a pas non plus de marché. Le marché est très, très faible. Il y a à peu près 800 points de vente dans l'ensemble du Maroc, donc pour 35 millions d'habitants. Sachant que sur ces 800 points de vente, beaucoup sont des commerces mixtes qui font de la papeterie, du cartable. Parfois, c'est des points saisonniers. Très peu sont professionnels, c'est-à-dire avec des libraires formés, capables de faire des sélections, de faire un choix, de donner des conseils aux lecteurs, de faire une programmation culturelle. Donc c'est un secteur en souffrance qui souffre du piratage, qui souffre de l'absence de réaction des pouvoirs publics à cette question du piratage, que ce soit physique ou numérique, qui souffre également de l'absence de l'encadrement du secteur par une loi du type de ce que la France a, comme la loi sur le prix unique du livre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond imposé pour les remises, notamment dans les marchés publics. Et un petit libraire de quartier se retrouve absolument défavorisé face à un gros distributeur qui sont souvent des filiales de multinationales et qui peuvent consentir des remises beaucoup plus importantes. Donc c'est des ressources qui échappent aux libraires et déjà ce tissu est très fragile, mais il est encore plus fragilisé par cette absence d'encadrement juridique du livre au Maroc. Donc ça aide pas.
Donc vous voulez dire que finalement vous constatez que les pouvoirs publics ne sont pas très intéressé par ce domaine qui est aussi un domaine économique qui peut être intéressant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et leur implication dans le développement des réseaux de lecture publique est très minime. Leur stratégie d'action, ça a été d'organiser quelques salons et de donner quelques subventions. Alors ces subventions, elles sont pas forcément exorbitante. Et puis surtout, quand il s'agit de subventions conçues comme des aides à l'édition, donc sur le principe du préfinancement, eh bien elles passent complètement à côté de leur objectif parce qu'elles sont versées parfois 2 ans, 3 ans plus tard. Nous venons seulement de recevoir la première tranche d'une aide pour un dossier déposé en 2016. C'est pas possible. Voilà. Donc l'engagement des pouvoirs publics est vraiment absolument sans rapport aucun avec les besoins qu'a le pays en équipement et en structuration et en encadrement. Et c'est criminel parce que c'est vraiment un droit humain qui nous est dénié dans ces conditions. Voilà. Le ministère finit par son inaction ou ses très faibles réalisations et son incompétence généralisée par devenir un acteur toxique du secteur alors qu'il devrait être un levier de développement et de soutien.
Est-ce que par là, on empêche des futurs auteurs d'émerger et que, au contraire, finalement, on favorise une production venue de l'extérieur, de l'étranger ?
Alors, c'est vrai que quand vous vous promenez dans les librairies, 90% de ce que vous y trouvez est importé parce que le Maroc n'a jamais été son centre de gravité éditoriale. Donc, beaucoup de livres sont importés de France, mais aussi du Liban, d'Égypte et même maintenant du Golfe puisque c'est des pays qui sont en train de prendre une place importante dans le champ de l'édition arabophone. Maintenant, ça n'a jamais découragé les gens de devenir des écrivains. Enfin, ceux qui ont quelque chose à dire, ils le disent. Il y a un taux d'édition à compte d'auteur qui est stable depuis plusieurs années, autour de 25%. Donc un quart de la production échappe à l'édition professionnelle. Bon, après, pour l'écrasante majorité, c'est des titres qui ne dépassent pas le cercle purement intime et familial de l'auteur. Et c'est rare qu'on y trouve des chefs-d'œuvre. Mais là, pour le coup, c'est comme partout. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'écrire, il écrit. Par contre, il ne peut pas en vivre. Et personne n'en vit.
Y a-t-il un problème avec la langue, par exemple ? Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, d'éditer dans une langue ou dans une autre, la mazigue, le français, l'arabe ?
Alors, les deux grandes langues de l'édition, c'est le français et c'est l'arabe. Et c'est d'abord l'arabe, parce que ça représente 78% des publications de l'an dernier, contre 17% pour le français. C'est lié au système scolaire, aux langues enseignées dans le système scolaire et à l'arabisation de l'enseignement depuis une trentaine d'années. Maintenant, la mazigue, qui est devenue une langue officielle, la deuxième langue avec l'arabe au Maroc, peine vraiment à apparaître sur la scène éditoriale. Alors il y a deux instances qui s'en occupent. Il y a l'IRCAM, qui est l'Institut Royal des Cultures Amazigh, et il y a une association basée à Agadir d'enseignants de lettres qui s'appelle l'association Tira. Et c'est cette association qui est à l'origine de la plupart des publications, plus de 60% des publications en amazigh. Maintenant, l'ensemble des publications en amazigh, c'est même pas un 75% du total des livres édités au Maroc. Ça reste très militant, avec une diffusion extrêmement fragile, extrêmement faible, et c'est ça qui est problématique.
Et dans ce domaine de l'édition, où vous parliez de la lecture plaisir, quelle est, non pas le poids, mais la production, une partie de votre production qui est basée sur du reportage, sur des enquêtes, est-ce que cette partie-là de la production est vivante aujourd'hui et est-ce qu'elle peut émerger ?
Alors notre collection phare en toutes lettres, c'est la collection Enquête et c'est une collection intégralement dédiée au journalisme d'investigation et au journalisme narratif. Alors par le biais du récit, ça nous permet d'apporter des éclairages et d'humaniser des questions de société qui nous semblent importantes, comme la question des droits humains, des droits des femmes, des droits des migrants, de la précarité d'une manière générale, de l'accès à la culture, de la justice sociale. Et en racontant des histoires des personnes qui vivent ces situations, il me semble qu'on peut les rendre plus concrètes, permettre aux gens de s'y identifier, d'en avoir une approche plus humaine, moins abstraite que par des rapports, par des chiffres ou par des analyses, même si nous veillons à ce que l'aspect documentaire soit à la hauteur aussi d'exigences professionnelles. Mais pour que ça puisse jouer ce rôle d'enjeu démocratique. Enfin, pour moi, c'est ça, faire un livre, et surtout un essai sur des questions comme ça. C'est vraiment transmettre des interrogations, transmettre des histoires pour éveiller les sensibilités des gens et leur conscience et les amener à avoir des outils pour un débat éclairé sur des enjeux publics d'une importance majeure. Donc dans ce cas-là, la mise en récit, elle est complètement stratégique pour permettre de sortir de cercles de spécialistes et d'atteindre des publics plus larges.
Et ça marche ?
Ça marche de façon, relative, parce que de toute façon, au Maroc, on est obligé de ne pas se contenter de faire des dépôts dans des librairies et d'être très actif au niveau de la promotion, d'organiser beaucoup de rencontres. Donc ça marche par ce biais-là. On est très en lien aussi avec la société civile, avec qui on a une relation très intime, puisque nos livres se nourrissent de leurs travaux et ils nous accueillent aussi pour la promotion des ouvrages. Donc oui, c'est comme ça qu'on arrive à faire que certains livres se sont vendus à 3000 à 4000 exemplaires, ce qui est le double ou le triple de la moyenne nationale, même si on n'échappe pas aux difficultés de ce secteur.
Merci Kenza Sefrioui.
Merci beaucoup Éric Bataillon. Merci de votre soutien.
Kenza Sefrioui, directrice de la maison d'édition En Toutes Lettres à Casablanca, au Maroc, que nous avons rencontrée au Salon Maghreb Orient des Livres le week-end dernier à Paris. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. On se retrouve avec plaisir samedi prochain à la même heure.
Le coq chante.